Chapitre 3. Pour ta femme, quand tu te marieras. Revenons à Gilead. On comptait dans le pays qu'une femme, qui avait avec elle un petit enfant, était venue, vers la fin de la Révolution, habiter Guernesey. Elle était anglaise, à moins qu'elle ne fût française. Elle avait un nom quelconque, dont la prononciation guernesiaise et l'orthographe paysanne avaient fait Gilead. Elle vivait seule avec cet enfant, qui était pour elle, selon les uns, un neveu, selon les autres, un fils, selon les autres, un petit-fils, selon les autres, rien du tout. Elle avait un peu d'argent, de quoi vivre pauvrement. Elle avait acheté une pièce de pré à la Sergentée et une janière à la Roque-Crépel, près de Roquaine. La maison du but de la rue était, à cette époque, visionnée. Depuis plus de 30 ans, on ne l'habitait plus. Elle tombait en ruine. Le jardin, trop visité par la mer, ne pouvait rien produire. Outre les bruits nocturnes et les lueurs, cette maison avait cela de particulièrement effrayant que si on y laissait le soir sur la cheminée une pelote de laine, des aiguilles et une pleine assiette de soupe, on trouvait le lendemain matin la soupe mangée, l'assiette vide et une paire de mitaines tricotées. On offrait cette masure à vendre avec le démon qui était dedans pour quelques livres sterling. Cette femme l'acheta, évidemment tentée par le diable ou par le bon marché. Elle fit plus que l'acheter. Elle s'y logea, elle et son enfant, et à partir de ce moment, la maison s'apaisa. « Cette maison a ce qu'elle veut, » dirent les gens du pays. Le visionnement cessa. On n'y entendit plus de cris au point du jour. Il n'y eut plus d'autre lumière que le suif allumé le soir par la bonne femme. « Chandelle de sorcière, vos torches du diable. » Cette explication satisfit le public. Cette femme tirait parti des quelques vergers de terre qu'elle avait. Elle avait une bonne vache à beurre jaune. Elle récoltait des mousettes blanches, des caboches et des pommes de terre golden drops. Elle vendait, tout comme une autre, des panais par le tonneau, des oignons par le sang et des fèves par le denrel. Elle n'allait pas au marché, mais faisait vendre sa récolte par Gilbert Falio, aux abreuveurs Saint-Sanson. Le registre de Falio constate qu'il vendit pour elle, une fois, jusqu'à 12 boisseaux de patates dites 3 mois, des plus en prunes. La maison avait été chétivement réparée, assez pour y vivre. Il ne pleuvait dans les chambres que par les très gros temps. Elle se composait d'un rez-de-chaussée et d'un grenier. Le rez-de-chaussée était partagé en 3 salles, 2 où l'on couchait, 1 où l'on mangeait. On montait au grenier par une échelle. La femme faisait la cuisine et montrait à lire à l'enfant. Elle n'allait point aux églises, ce qui fit que, tout bien considéré, on la déclara française. N'aller à aucune place, c'est grave. En somme, c'était des gens que rien ne prouvait. Française, il est probable qu'elle l'était. Les volcans lancent des pierres et les révolutions des hommes. Des familles sont ainsi envoyées à de grandes distances, des destinées sont dépaysées. Des groupes sont dispersés et s'émiettent. Des gens tombent des nues, ceci en Allemagne, cela en Angleterre, cela en Amérique. Ils étonnent les naturels du pays. D'où viennent ces inconnus? C'est ce Vésuve qui fume là-bas, qui les a expectorés. On donne des noms à ces aérolithes, à ces individus expulsés et perdus, à ces éliminés du sort. On les appelle émigrés, réfugiés, aventuriers. S'ils restent, on les tolère. S'ils s'en vont, on est content. Quelquefois, ce sont des êtres absolument inoffensifs, étrangers, les femmes du moins, aux événements qui les ont chassés, n'ayant ni haine ni colère, projectiles sans le vouloir, très étonnés. Ils reprennent racine comme ils peuvent. Ils ne faisaient rien à personne et ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. J'ai vu une pauvre touffe d'herbe lancée éperdument en l'air par une explosion de mine. La Révolution française, plus que toute autre explosion, a eu de ces jets lointains. La femme qu'à Guernesey on appelait la Gilead était peut-être cette touffe d'herbe-là. La femme vieillit, l'enfant grandit. Il vivait seul et évité. Il se suffisait. Louve et louveteau se pourlèchent. Ceci est encore une des formules que leur appliqua la bienveillance environnante. l'enfant devint un adolescent, l'adolescent devint un homme. Et alors, les vieilles écorces de la vie devant toujours tomber, la mère mourut. Elle lui laissa le pré de la Sergentée, la janière de la Roque-Crépelle, la maison du but de la rue, plus, dit l'inventaire officiel, 100 guinées d'or dans le pied d'une couche, c'est-à-dire dans le pied d'un bas. La maison était suffisamment meublée de 2 coffres de chêne, de 2 lits, de 6 chaises et d'une table, avec ce qu'il faut d'ustensiles. Sur une planche, il y avait 2 livres, et dans un coin, 1 malle, pas du tout mystérieuse, qui dut être ouverte pour l'inventaire. Cette malle était en cuir fauve, à arabesques de clous de cuivre et d'étoiles d'étain, et contenait un trousseau de femmes neuf et complet, en belle toile de fil de Dunkerque, chemise et jupe, plus des robes de soie en pièces, avec un papier où on lisait ceci, écrit de la main de la morte. « Pour ta femme, quand tu te marieras. » Cette mort fut pour le survivant un accablement. Il était sauvage, il devint farouche. Le désert s'acheva autour de lui. Ce n'était que l'isolement, ce fut le vide. Tant qu'on est deux, la vie est possible. Seul, il semble qu'on ne pourra plus la traîner. On renonce à tirer. C'est la première forme du désespoir. Plus tard, on comprend que le devoir est une série d'acceptations. On regarde la mort, on regarde la vie, et l'on consent. Mais c'est un consentement qui saigne. Gilliatt étant jeune, sa plaie se cicatrisa. À cet âge, les chairs du cœur reprennent. Sa tristesse, effacée peu à peu, se mêla autour de lui à la nature, y devint une sorte de charme, l'attira vers les choses et loin des hommes, et amalgama de plus en plus cette âme à la solitude.